salut. Et alors, voilà, Jacques se présente, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus dispersées. Donc, c'est une manière de s'adresser avec une image du peuple d'Israël, là aussi à chaque chrétien, héritier de petit frère, du fils des Juifs, dans la foi. Et alors, il y a quatre Jacques dans le Nouveau Testament. Et il s'agit de savoir qui est le Jacques qui s'adresse à nous ce matin. Alors, ce Jacques, je vous le dis sans embâge, directement, ce Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. C'est son petit frère. Il en a eu trois autres encore. Le fils biologique de Joseph et Marie. Au tout début du ministère de Jésus, les frères de Jésus et Marie, d'ailleurs, ne comprenaient pas et ne le suivaient pas. Mais ensuite, on va le voir, au moment, après la résurrection, on va le voir auprès des disciples, et même le jour de la Pentecôte. Et en fait, Paul nous apprend que Jésus s'était spécifiquement révélé à Jacques lorsqu'il était ressuscité. Et à ce moment-là, Jacques est devenu un vrai quasi-apôtre. S'est mis à être un leader dans l'Église primitive, notamment à Jérusalem. Et son autorité était reconnue, hein, de telle sorte que quand il dit de la part de Jacques, tout le monde sait de qui il s'agit, alors qu'il y avait beaucoup de Jacques à l'époque. Il est mort en martyr, comme de nombreux disciples qui ont suivi Jésus-Christ. Alors, qui était là la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Personne. Ah si, quand même, il y a Pierre, Paul, il y a quand même quelques-uns. Je vais faire une petite... si, vous étiez là, je sais. une petite remarque sur cette présentation. En fait, le message de la semaine dernière, c'était Clément qui le donnait. Il nous a parlé du statut d'esclave. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, en gros, tous les hommes sont esclaves. Ils sont soit esclaves d'un très mauvais maître, qui est le péché, qui les asservit, qui les envoie dans des mauvaises directions, soit d'un maître merveilleux qui rachète l'esclave du péché, qui devient donc... qui est auprès d'un bon maître, une relation paisible avec Jésus-Christ, qui nous a payé, qui nous a racheté en nous donnant sa vie. Et alors Jacques, je pense que si j'étais à la place de Jacques, j'aurais peut-être présenté mon épître comme ça. Jacques, pasteur en chef de l'église de Jérusalem, la ville sainte, reconnu comme apôtre et frère de Jésus-Christ. Salut. Ça aurait envoyé, hein? Mais lui, il choisit de dire de la part de Jacques, le mot qui dit serviteur, c'est le mot esclave, c'est doulos. De la part de Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai aussi, mais ça nous fait réfléchir. C'était son frère. Ils ont dormi sous le même toit peut-être pendant 30 ans. Ils ont mangé à la même table. Et il dit, je suis esclave du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, juste une petite pensée en passant. Cette lettre, elle nous invite à ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est une lettre très, très directe. Vous savez, Paul, souvent, ses lettres, première partie théologie, deuxième partie pratique. Jacques, il n'est pas comme ça. On va parler de sujets pratiques. On a presque l'impression qu'il passe du coq à l'âne, mais en fait, il suit un fil de pensée. Et il va aborder de nombreux sujets, alors parmi lesquels les épreuves, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la prière, l'accueil, richesse et pauvreté, ça c'est un thème qui revient plusieurs fois, les paroles, les actes, est-ce qu'ils sont en conformité avec la parole, le conflit intérieur, des fois d'être tiraillé, et les conflits tout court, etc. Il y a d'autres thèmes encore. Et du coup, cette lettre, elle fait aussi penser un peu à Proverbes, où il va y avoir ces phrases emblématiques qui vont parler d'un sujet pratique. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ça ressemblait énormément au message du Seigneur Jésus. Dans le style, dans les thèmes abordés, toujours très pratique, très concret, et dans le style aussi, avec des images, des paraboles, et puis toujours ces phrases percutantes. Alors après, en y réfléchissant, est-ce que c'est étonnant pour des frères de s'exprimer un peu pareil? Et alors ce matin, Jacques nous parle des épreuves. Et voilà, c'est pas dans mes notes, mais je me suis dit ce matin, je suis peut-être pas le mieux placé pour vous parler des épreuves. Je suis relativement jeune. Et finalement, c'est au fur et à mesure de la vie qu'on apprend les épreuves. Et c'est vraiment du coup en me soumettant à l'écriture que je veux vous parler. C'est l'écriture qui va essayer de nous apprendre des choses sur les épreuves ce matin. Voilà, on va commencer à lire le passage. Donc, versets 2 à 18 du chapitre 1. Tu tiens, Paul, si tu veux bien passer. Voilà, Jacques, le demi-frère de Jésus, j'ai oublié le mot. Et l'épître de Jacques, là, vous allez voir un manuscrit du deuxième siècle. Et c'est encore la page suivante. Voilà la parole de Dieu. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Alors voilà, le plan que je propose, c'était bien. Quand l'épreuve devient réelle, très courtement là-dessus, quand l'épreuve devient un sujet de joie et quand l'épreuve devient un sujet de tentation. Alors tout d'abord, Jacques est un réaliste, tu peux présenter le texte. Il sait que la vie est dure. Le verset 2, la deuxième partie du verset 2, ça dit, en fait, littéralement, si on prend mot à mot, quand des épreuves variées vous tombent dessus. Le mot « vous tombe dessus », c'est le mot qui est utilisé dans la parole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Quand le bon samaritain descend de Jérusalem vers Jéricho, il y a des brigands qui lui tombent dessus. Et c'est un peu comme ça que nous arrivent les épreuves. À un moment ou à un autre, ça nous tombe dessus. D'ailleurs, ça ne nous dit pas si des épreuves vous tombent dessus. Ça dit quand des épreuves vous tombent dessus. Les épreuves, les malheurs, les afflictions, c'est quelque chose de courant dans cette... réalité, ce monde affecté par le cancer du péché, ça nous tombe dessus. Et ces épreuves sont variées. Au cours de l'épître, Jacques va parler de pauvreté, on l'a vu un petit peu, des orphelins et des veuves qui souffrent de solitude, d'un deuil, et à l'époque, de vulnérabilité. Il va nous parler de procès injustes, de critiques, d'injustice dans le travail, de souffrance, de maladie. Mais cette liste n'est certainement pas exhaustive. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Ce matin, on nous parle d'un attentat. La violence. Le stress aussi. Les épreuves sont diverses. Nous avons chacun nos épreuves. Les carences affectives, la tension, le rejet, la solitude, difficultés dans le travail ou les études, ou même la perte d'un emploi, des pertes matérielles, accidents, deuil, injustice, trahison, humiliation. Que ce soit pour nous, ou même parfois c'est même plus douloureux quand ça arrive à nos proches, personne n'est épargné. Et alors Jacques nous dit quoi faire quand cela arrive. Il nous dit de nous réjouir. J'ai dit à l'instant que Jacques était un réaliste, mais peut-être que maintenant vous commencez à avoir des doutes là-dessus. Est-ce que Jacques est un peu maso? On aurait pu poser cette question si on avait juste ce verset. Mais en fait, non. Jacques, il va nous donner des raisons pour cela. Il dit que l'épreuve n'est pas en elle-même un sujet de joie, mais qu'on a des raisons de considérer l'épreuve comme même un pur sujet de joie, une joie complète, selon une traduction. Et il va nous exposer ces raisons, et j'ai essayé de les résumer en trois mots. Endurance, dépendance et espérance. En essayant que ça se retienne, mais on verra. La première chose que fait ces épreuves, on le sait en fait, c'est le verset 3, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Il y a des choses qu'on sait, qu'on a besoin d'entendre de nouveau. Nous savons que les épreuves peuvent nous rendre endurants, persévérants. C'est un test pour notre foi qui en sort affermi. Et chacun admire les personnes qui endurent les épreuves avec courage, sans en devenir aigri. C'est des personnes qui vraiment surmontent les épreuves. Pas dans le déni ou qui font semblant de ne pas être touchés. Cette semaine, avec Isabelle, on nous a offert un cadeau d'anniversaire. On est allé voir deux musiciens à Paris, un violoncelliste et puis un pianiste. Ils étaient extraordinaires, vraiment. Et à un moment, ils ont choisi de jouer un chant qui s'appelle Amazing Grace. Certains savent que c'est un de mes chants préférés. Et ils ont choisi de le dédier aux super-héros. Et ils ont dit attention aux vrais super-héros. Pas Superman ou Spider-Man. Et c'est là que le violoncelliste a commencé à parler de son père. Son père a élevé 5 enfants, malgré le fait que sa femme avait une tumeur au cerveau pendant 12 ans. Et puis elle est décédée. Devenu veuf, il s'est remarié avec une certaine Marianne, qui apparemment son fils adoptif, entre guillemets, aimait beaucoup, qui est aussi décédé du cancer. Et malgré tout cela, cet homme reste joyeux, pas un mot d'amertume. Et c'est rare d'entendre ça dans une salle de concert parisienne, et qui dit se confier et de confier toute cette peine à la grâce de Dieu. Quel modèle pour ses enfants. Alors l'épreuve nous rend tenaces, et pour être endurant, il faut avoir enduré. Comment savoir si on est solide, si on n'a pas été éprouvé, si on n'a jamais été éprouvé. Alors, vous vous souvenez peut-être que vous avez été au collège et au lycée, vous avez fait du sport, et vous avez peut-être vu ou fait partie de ces petits malins qui, de temps en temps, quand le prof a le dos tourné, baisse un peu d'intensité. On prend des raccourcis pour faire le tour du stade, ou on compte deux pompes pour une pompe, ou ce genre de choses. Voilà, ça paraît anodin, mais on pourrait le regretter plus tard, lorsque on est en match, ou on est en examen. Et quelque part, Jacques nous encourage à profiter de nos épreuves, comme d'une occasion d'être renforcé. L'Église, je dirais même la France, le monde, et là je m'adresse particulièrement aux hommes, l'Église a besoin d'hommes courageux, de personnes qui n'ont pas peur de la souffrance. Il ne s'agit pas d'aller chercher la souffrance, mais des gens qui tiennent bon, quoi qu'il arrive. Nos enfants nous regardent. Bref. Deuxième chose que peut apporter la souffrance, donc les épreuves, j'avais parlé d'endurance, et ensuite je parle de dépendance. Alors j'ai dit dépendance, mais ce que dit exactement le texte, donc, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche pour que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. C'est une catégorie peut-être plus importante encore, vous êtes complet, hein, c'est ce mot parfaitement, il ne vous manque de rien. les épreuves sont des occasions de grandir. Il y a quelques années, on étudiait avec un groupe d'étudiants le sermon du semeur et des terreaux. Et dans cette parabole de Jésus, il parle au moment d'une partie de graines, donc de sa parole, qui est semée dans un terrain où il y a des pierres et donc pas beaucoup de terre. Et très vite, les plantes poussent, mais le soleil sort et les brûle, parce qu'elles n'ont pas de racines en elles. Et j'avais été frappé de la remarque d'un ami qui disait à ce moment-là, c'est drôle, parce que le soleil, si elles avaient eu des racines, le soleil les aurait aidées à grandir. Et c'est pareil pour nos épreuves, elles agissent comme le soleil sur les plantes. Si nos racines sont profondes, si notre foi, elle est solide en Dieu, et Dieu peut venir à notre secours pour cela, et bien en tout cas, ces épreuves nous font grandir. Cette foi authentique permet de grandir dans les épreuves. Dans l'autre sens, quand on n'a pas d'épreuves, on va stagner. On a un risque de stagner en tout cas. On a aussi un risque de se croire autosuffisant. Après tout, je me débrouille pas si mal. Et c'est dans les épreuves que Dieu peut nous travailler. On est peut-être aussi plus susceptible de se remettre en cause dans les épreuves. Peut-être que tout va pas bien dans ma vie, j'ai des choses à régler. Il faut que je confesse un péché peut-être. On a l'occasion de se laisser modeler, on est plus à l'écoute dans l'épreuve, on cherche une solution. Et alors j'ai une image dans la suite, voilà, le sujet de joie, juste après, encore, voilà. À gauche, un diamant brut, à droite, un diamant taillé. Alors à vous de savoir ce que vous préférez, mais en tout cas, à droite, il coûte beaucoup plus cher. Et Dieu est un peu comme ça, enfin, c'est une image qu'on a besoin d'être taillé des fois pour mieux refléter sa lumière. Et en ça, l'épreuve a de la valeur. Ça paraît un peu léger de le dire comme ça, mais ceux qui ont vécu des épreuves peuvent vous le dire. J'ai été, à une époque, on avait un ami de l'église de mes parents qui a eu le cancer, je dérive, et il nous envoyait des lettres de nouvelles pour savoir où est-ce qu'on en était. Où est-ce qu'il en était ? Et on s'attendait à être accablé par ces nouvelles. Et qu'est-ce qu'il était encourageant ? Qu'est-ce qu'il apprenait de Dieu dans ces vies-là, dans cette épreuve ? L'épreuve nous remet à notre véritable place, c'est celle de se mettre à genoux devant Dieu, pour lui demander ce qui nous manque, ce que dit ce texte. L'occasion de ne manquer de rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épreuve de Paul, qui est assez mystérieuse. On parle d'une écharpe dans la chair. Et Dieu lui a dit qu'elle était là pour qu'il ne manque pas d'humilité, malgré toutes les révélations merveilleuses qui lui ont été faites. Si votre foi tremble au milieu de l'épreuve, c'est l'occasion de demander à Dieu de l'affermir. Aussi, ce que me disait... François, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sait ce que c'est que l'épreuve. L'épreuve, ça donne de la compassion. Quand on a vécu quelque chose, on sait ce que c'est, un petit peu. Et alors, une des choses sur lesquelles insiste Jacques, dans ce texte, que peut nous apporter l'épreuve, c'est la sagesse. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, je pense que tu peux passer une slide, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. On a besoin de la sagesse de Dieu pour comprendre ce qu'il veut nous apprendre dans nos circonstances. Et en fait, ça veut dire comment Dieu veut que je l'aime dans ces circonstances. On a besoin de la sagesse pour savoir que faire. Et surtout, on a besoin de sa sagesse pour pouvoir dire que ta volonté soit faite. Alors, pour avoir cette sagesse, nous dit Jacques, il suffit de demander. Des fois, quand on prie, on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu. Mais quand nous demandons de la sagesse, c'est la volonté de Dieu, c'est marqué. Dieu nous donnera sans faire de reproche. Il n'y a pas de doute à avoir. Si on croit en Dieu, il est prêt à nous donner de la sagesse. Et enfin, je vais vous parler de l'espérance. En fait, c'est la vraie raison qui sous-tend derrière. Tout cela, je veux dire, le fait d'être plus endurant, le fait de grandir, ça n'a aucun sens si notre vie s'arrête à la mort. Paul le dit, dans 1 Corinthiens 15, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Je continue un peu sur le verset qui suit. « Mais maintenant, Christ est ressuscité. » C'est pour ça qu'on va parler de richesse juste après. Je ne sais pas si... Voilà. On parle de richesse et de pauvreté. En fait, la richesse, elle est un piège. On peut même peut-être considérer que c'est une épreuve. Un test, en tout cas. Parce qu'on peut éviter beaucoup d'épreuves, au moins les atténuer quand on a de la richesse. Quelles que soient nos richesses, nous allons mourir et on ne partira pas. De toute façon, elles ne nous serviraient à rien. La mort, c'est le krach boursier absolu. Toutes les valeurs financières s'écrasent, elles ne valent plus rien. Et la seule valeur qui reste, c'est notre relation avec le Créateur. C'est ça que construit nos épreuves. J'ai envie de vous parler de Jim Elliot. Donc, vous allez voir sa tête. Jim Elliot, il avait bien compris ça. Et donc, cet homme, en 1956, a tenté d'évangéliser en Équateur une tribu qui s'appelle, c'est les Waurani. Waurani. Et donc, c'était une tribu très violente à l'époque. La plupart des gens mouraient à cause de violences. Et ils avaient eu cet appel de dire « Nous, on va les évangéliser ». Ils avaient commencé à avoir des contacts avec la population et ils se sont sentis à un moment de pouvoir aller dans leur village, dans un des villages de ces tribus. Quelques jours après, on les a retrouvés, ces cinq hommes, massacrés sur une plage. Et il écrivait, cet homme, dans son journal « Il n'est pas sot celui qui donne ce qu'il ne peut pas perdre afin de gagner, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ce que vous voyez ici. Voilà. Cet homme avait une femme, Elisabeth. Ils étaient mariés depuis 2-3 ans. Voilà. Et ils avaient une fille de 10 mois. Elisabeth a choisi de rester en Équateur, évangéliser les locaux. Et par un concours de circonstances, elle s'est trouvée à évangéliser les Waurani. Elle a eu une opportunité et elle a pu leur apporter l'évangile. En 1969, elle s'est remariée à 42 ans et son deuxième mari est mort 4 ans après d'un cancer foudroyant. Ensuite, elle s'est remariée encore beaucoup plus tard et puis elle est décédée il y a 2 ans après avoir lutté 11 ans avec la maladie d'Alzheimer. Et son troisième mari, Lars, a écrit « Elle a accepté ces circonstances, sachant que Dieu n'était pas pris au dépourvu. Certes, elle aurait préféré ne pas passer par là, mais elle l'a accepté. » Elisabeth donc, a écrit beaucoup de livres, elle a fait une émission radio, et elle a notamment écrit sur la souffrance. Elle dit « Le secret, c'est Christ en moi, pas un ensemble de circonstances différentes. Christ en vous, l'espérance de la gloire, nous dit Paul en Colossiens. Sa vie et celle de Jim n'ont aucun sens sans l'espérance de la résurrection. C'est pour ça que le pauvre peut tirer fierté de son élévation. Et puis qu'on a ce verset 12 qui arrive, je vais vous le lire en tout cas. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. L'épreuve est l'occasion de faire ses preuves. Le jeu de mots existe aussi en grec. De confirmer que nous sommes bien dans la foi, et cette confiance en Dieu qui a pour fruit la vie. Maintenant, il y a un sujet sur lequel Jacques a envie de nous alerter, le sujet de quand l'épreuve devient tentation. Tu peux... voilà, maintenant c'est bien. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une version en grec sur ses genoux, je ne crois pas. Mais en tout cas, si c'était le cas, vous vous étonneriez, parce que on a changé de traduction pour un des mots. Au verset 2, le mot « perasmos » était traduit par « épreuve », et maintenant il est traduit par « tentation ». Alors, faut croire qu'il y a une différence subtile entre l'épreuve et la tentation, et suivant le contexte, il peut être légitime de traduire un mot d'une manière ou d'une autre. Et alors, l'incitation, pardon, la tentation, en un mot, c'est l'incitation à pécher. Et Dieu a en horreur le péché. La Bible nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut en aucun cas nous inciter à pécher. C'est ce que dit ce texte. Mais nous, si on nous écoute, c'est jamais notre faute. C'est jamais vraiment. Vous vous souvenez de. Enfin, si vous demandez à un enfant, vous le prenez en flagrant délit, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi, c'est pas ma faute. À l'occasion du premier péché de l'histoire, Dieu va vers Adam. C'est un passage qui est beau. Et il lui demande comment il en est arrivé là. Adam lui répond. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. C'est pas Adam, c'est pas lui. Hein. Dieu se tourne vers Ève. Qu'est-ce qu'elle dit, Ève? Le serpent m'a séduite. Ah, tout le monde est des victimes en fait. On est un peu comme ça. On veut pas reconnaître nos fautes et on aurait presque, dans l'épreuve, envie d'accuser Dieu si on chute. Alors, d'où vient la tentation? Jacques nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Alors, c'est un mot, ce propre désir, ses propres désirs mauvais, c'est la convoitise, comme c'est traduit dans des anciennes versions. C'est des désirs malsains qui ont été détournés, une volonté de faire des choses mauvaises. En fait, ça part pas forcément de choses mauvaises en soi à la base. Voilà. Par exemple, donc pour être tenté, il faut qu'il y ait cette tentation, ce désir malsain et une occasion de l'assouvir. Typiquement, on peut avoir un rapport malsain à l'argent, on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus, mais sans être tenté de braquer une banque, parce que l'occasion, elle n'est pas évidente à rencontrer, en tout cas une occasion facile. Dans l'autre sens, si vous n'aimez pas le chocolat, pas de problème de ce côté-là, vous serez jamais tenté d'en voler. C'est là qu'il faut la conjonction des deux. Mais ça ne veut pas dire forcément que ces choses sont mauvaises en soi à la base. Mais c'est qu'on a un désir qui se rapproche de l'idolâtrie. On veut cette chose plus que Dieu. Et ça peut, bon, encore une fois, ça peut être vraiment des bonnes choses. On peut être indigné par le mensonge et l'injustice, mais ça ne justifie jamais l'amertume ou la violence. On peut être peiné, vraiment, par la solitude. Mais ça ne justifie pas l'immoralité sexuelle ou même les mauvaises fréquentations. Il est légitime de vouloir des conditions de vie décentes pour soi, pour sa famille, mais ça ne justifie pas la fraude, l'amour de l'argent ou la jalousie. Et Jacques, ensuite, dans ce texte, va nous montrer un peu le processus de la tentation qui enfante le péché et. Il utilise un vocabulaire presque grotesque. Les traductions ont tendance à l'atténuer. Je vais essayer de le retraduire autrement, en prenant un peu les mots qui sont dans les nuances qu'il y a dans l'original, on va dire. Alors, il dit au verset 14, chacun. Alors, au passage, c'est le lot de tout le monde. Il n'y a personne ici qui n'est pas tenté. Chacun est tenté quand il est leurré, quand il est attiré comme un animal à la chasse par le chasseur qui a lancé des leurres. Et appâté comme un poisson, c'est vraiment des vocabulaires spécifiques, hein, qu'il utilisait, appâté comme le poisson qui voit le petit ver, qui gigote et qui s'accroche à l'hameçon. Pas tout ça par sa propre convoitise, donc ça vient de l'intérieur, pas de Dieu. Ensuite, il va changer de métaphore et dit, puis la convoitise tombe enceinte et met au monde le péché. Et le péché qui sera accompli, parvenu jusqu'au bout. Lui-même, il met au monde la mort. Mettre au monde, normalement, on met au monde la vie, et là, on met au monde la mort. Il y a un jeu, en fait. Jacques, il veut nous montrer à quel point ce processus, il est absurde. Et il est mortel. Au fond, lorsqu'on est éprouvé, même en général, mais en particulier lorsqu'on est éprouvé, il y a deux voies qui s'offrent à nous. On a vu la première, elle mène à la vie, la persévérance. Et il y a une deuxième qui mène à la mort. Dieu nous garde, quand on est croyant, d'être auprès de lui à la fin. Mais c'est un avertissement ferme. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché véniel, il n'y a que des péchés mortels. La Bible nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jacques nous écrit ensuite, si tu peux passer. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, conformément à sa volonté. Il nous a donné la vie par sa parole, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » On l'a un peu déjà dit ce matin dans les chants. Les dieux païens, de leur côté, hein, les dieux que connaissaient les Grecs, ils ont été faits par l'homme, vraiment. Hein. Ils ont été faits à l'image de l'homme, même, on pourrait dire. Esclaves de leurs pulsions, inconstants, même méchants. Et ce n'est pas le cas du vrai Dieu, de notre Dieu. Dans notre monde, même les choses qui paraissent les plus stables, comme les étoiles du ciel, on a chanté « Toi qui as fait le cours des étoiles », en fait, elles se déplacent à des vitesses vertigineuses. Les gens qui font un peu d'orientation, ils savent qu'on peut se diriger avec les étoiles. Il y a l'étoile polaire qui est toujours au nord. En réalité, il y a une précession des équinoxes. Et donc, dans quelques centaines de siècles, l'étoile polaire ne sera plus au nord. Il y a tout qui bouge, en fait. Même les choses qui nous paraissent les plus stables dans ce monde bougent. Même les lumières dans ce monde. Mais Dieu, il n'a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Il y a une lumière parfaite. Dans l'épreuve, dans la tentation, nous avons cette encre. Cette encre au milieu de la tempête. En faisant ce message, j'ai beaucoup pensé au cantique « Si la mer se déchaîne » qu'avait annoncé Marianne. C'est notre encre. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Mais il a dit « Allons de l'autre bord ». Rien n'échappe à son contrôle. Il nous aime et c'est pourquoi nous passons par des épreuves. Et ces derniers versets, ils parlent de l'Évangile. Il nous a donné la vie par la parole de la vérité. Cette vérité, c'est que Jésus-Christ, Dieu le Fils, est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous donner la vie. Lui, il savait que ça allait être extrêmement difficile. Il en a sué des gouttes de sang. Il a prié pour être épargné, comme nous prions dans la tentation, dans l'épreuve, si c'était possible. Mais il a dit aussi que ta volonté soit faite. Elisabeth Elliot commençait presque toutes ses émissions de radio par ces mots « Tu es aimé d'un amour éternel », cité Jérémie. « Tu es aimé d'un amour éternel », c'est ce que dit la Bible, « et au-dessous de toi sont les bras éternels ». Souvenons-nous de ces mots en toutes circonstances, dans l'épreuve et quand l'épreuve devient tentation. Je vais conclure. Vous connaissez peut-être des gens. Je n'ai pas eu envie d'en nommer. Et je pensais à personne ici, d'ailleurs. Je tiens à préciser. Quelqu'un qui a connu une épreuve vraiment difficile, mais qui est resté bloqué et aigri. Vous savez, dans l'épreuve, il y a un avant et un après. On peut en sortir grandi. Mais on ne peut jamais en sortir. C'est du passé, mais ça reste, ça s'accroche. Quelqu'un qui ne vit plus que dans le ressentiment. Ça peut être quelqu'un qui a conscience de ses propres fautes, mais il ne veut pas demander pardon parce qu'il ne veut plus s'abaisser. Il en veut aux hommes, il s'en veut à lui-même, et il en veut à Dieu. Aujourd'hui, si vous vivez des épreuves, il faut vous poser la question de qui vous préfériez être. Quelqu'un comme cet homme que je viens de décrire, ou quelqu'un comme Jim, ou Elisabeth Elliot, nous pouvons sortir grandis des épreuves par la grâce de Dieu. Et j'ai envie de terminer par cette phrase d'Elisabeth Elliot. La volonté de Dieu n'est jamais exactement ce à quoi on s'attend. Ça peut paraître bien pire, mais en fin de compte, ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus grand. Je ne me permettrai pas de le dire moi-même. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis jeune, Dieu m'a beaucoup épargné jusqu'ici. Et peut-être que vous pouvez comprendre ces mots dans vos vies. En tout cas, Elisabeth Elliot se permet de le dire. La volonté de Dieu n'est jamais exactement ce à quoi on s'attend. Ça peut être bien pire, mais en fin de compte, ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus grand. Je pense à ce chant aussi. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Priez. Dieu et Père, ce n'est pas un sujet léger que tu mets devant nous ce matin. Et je sais que tu ne nous éprouves pas par gaieté de cœur. Et toi, tu vois plus loin que notre petit confort. Nous serions prêts à te demander juste une vie paisible et même plein de plaisir. Mais toi, tu veux plus que ça. Tu veux que nous apprenions à mieux te connaître, à être remplis par ta présence, à être grandis, à obtenir une couronne de vie. Seigneur, donne-nous cette vision-là, quoi qu'il arrive. Donne-nous ton courage, donne-nous de l'endurance, donne-nous de la sagesse. Et que chacun de nous puisse dire pour sa vie que ta volonté soit faite. Si quelqu'un, Seigneur, ce matin ne t'appartient pas, qu'il sache que la vie avec toi est merveilleuse, même si elle n'est pas plus facile. Mais tu as promis d'être là, d'être présent, et nous voyons devant ton retour prochain, où tu sécheras toute larme de nos yeux. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen.
Merci pour ce beau message sur les épreuves.